France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Anouk Millot, Fanny Richet, Sacha Mattei et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. Après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, Culture Monde entame cette semaine une série sur les nouveaux bastions du djihadisme dans le monde, mais surtout leurs différentes stratégies pour mieux s'adapter aux contextes locaux et déstabiliser les États. Nous parlerons demain du Sahel, mercredi de la Somalie, jeudi du Khorasan à la frontière afghano-pakistanaise, aujourd'hui dans la Syrie nouvelle, où l'État islamique reste à l'affût.
On venait de finir la prière et on allait sortir. Puis quelqu'un, le visage masqué et portant des armes, est arrivé. Il a ouvert le feu sur la foule, tuant de nombreuses personnes. L'église était pleine. Les gens l'ont entouré et se sont jetés sur lui. C'est là qu'il a actionné sa ceinture d'explosifs.
Après le renversement de Bachar, ça a créé un vide et les cellules de Daesh ont commencé à agir de plus en plus, par petits groupes, à moto. Ils nous tirent dessus au sniper. Et puis il s'enfuit.
La Syrie a été sauvée de la mort. Elle a été sauvée. Mais elle est grièvement blessée et se trouve aujourd'hui en réanimation. Heureuse d'être entre vos mains, mais profondément meurtrie. Elle vous invite à vous tenir tous unis et à collaborer pour la soigner et refermer ses plaies.
Ensemble, pour sortir la Syrie du coma, ce profond sommeil moite et noir, interrompu parfois de brefs réveils brumeux, le président intérimaire de Syrie, Ahmed al-Shara, paraît connaître la ressemblance étrange de la maladie avec la guerre, ses compromis, ses exigences et ses feintes, comme dit l'empereur Adrien dans ses mémoires imaginaires. La Syrie fabrique donc, autant qu'elle peut, des anticorps, toujours exposés qu'elle est à un agent pathogène du nom d'État islamique. L'organisation terroriste n'a pas disparu du pays. Elle s'est recomposée depuis sa défaite à Barrouz en 2019 qui avait marqué l'effondrement de son califat et plus encore depuis la chute de Bachar al-Assad qu'elle souhaitait elle-même ardemment et qui a pendant un temps désorganisé les forces armées syriennes. C'est contre ces forces armées d'ailleurs que l'État islamique commet le plus d'attentats depuis un an, même s'il vise aussi parfois des églises. On entendait par exemple le témoin d'une attaque contre celle de Saint-Élie à Damas le 22 juin dernier. Si le président par intérim Ahmed al-Shara est lui-même un ancien membre de l'État islamique. Il a quitté en 2013 pour la franchise syrienne d'Al-Qaïda, puis pour fonder HTS. Il se donne aujourd'hui pour rôle de pacifier la Syrie, de la réparer, de la réunifier, et pour cela de discuter avec les Kurdes, mais aussi avec les Occidentaux, comme il le fera aujourd'hui même avec Donald Trump à Washington. Toutes les forces sont bonnes pour lutter contre ce qui reste des organisations terroristes, lesquelles l'accusent d'avoir trahi son passé. Bonjour Wassim Nasr.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Vous avez fait beaucoup d'allers-retours en Syrie avant la chute de Bachar al-Assad et après. Nous sommes également depuis Beyrouth avec Arthur Kenney. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous dans Culture Monde. Vous êtes chercheur en sciences politiques affilié à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit « Syrie, anatomie d'une guerre civile » aux éditions du CNRS et vous rentrez tout juste de 6 mois en Syrie. Vous retournerez d'ailleurs à Damas demain. Alors on va tâcher avec vous d'abord d'avoir un instantané le plus précis possible de ce que représente l'État islamique à ce jour. Arthur Kenney, est-ce qu'on a une idée de combien d'hommes l'État islamique a réussi à conserver d'hommes de djihadistes en Syrie?
Eh bien, à la chute de Bachar Assad en décembre, l'État islamique comptait environ entre 1000 et 1500 combattants en Syrie, principalement dans la Badia. Actuellement, très difficile de savoir quels sont les effectifs du groupe, étant donné que les différentes forces combattantes qui étaient dans la Badia, dans le désert syrien, ont été envoyées dans les différentes villes dans l'ouest de la Syrie, Homs, Hama, Alep, Damas, et sont en cours de réorganisation. On sait qu'il reste environ quelques centaines de combattants dans la Badia, notamment les combattants étrangers qui ne peuvent pas aller dans les villes, parce qu'ils seraient repérés trop facilement. Et l'État islamique compte également plusieurs centaines de combattants actifs dans la région de Deir ez-Zor, notamment dans la zone encore contrôlée par les forces kurdes, les forces démocratiques syriennes kurdes soutenues par la coalition dans l'est de la Syrie.
Et ces cadres,
on est environ à 1 000-1 500 hommes.
1 000-1 500 hommes, ces cadres, ces têtes pensantes, est-ce qu'on sait s'ils sont, si elles ou ils, têtes pensantes ou cadres, sont toujours en Syrie?
Alors le leadership de l'État islamique s'est redéployé depuis plusieurs années, principalement en Afrique, à partir de la Somalie, il y a quelques années. Pourquoi ? Parce que les frappes de la coalition contre eux en Syrie étaient beaucoup trop sévères et l'organisation n'arrivait pas à soutenir l'attrition. Il y a par contre des commandants opérationnels qui sont toujours sur le terrain et qui sont principalement syriens, avec évidemment l'aide de combattants de l'État islamique irakien qui franchissent la frontière et se redéploient actuellement en Syrie depuis cet été.
Wassim Nasr, avant la chute de Bachar al-Assad, le groupe islamiste HTS dont est issu le président intérimaire Ahmed al-Shara contrôlait certains territoires, alors avec plus ou moins de succès dans la province d'Idlib par exemple, que gouvernaient les HTS. Son contrôle était plus relâché, dit-on, dans les zones rurales. Est-ce que la chute du régime bassiste et la prise de pouvoir par HTS ont forcé l'État islamique à quitter ces zones-là?
Non, je ne dirais pas ça. Comme l'a très bien dit Arthur, la force de frappe, en tout cas de l'État islamique, était concentrée au nord de l'Euphrate, donc contre les forces démocratiques syriennes, donc kurdes, le long de l'Euphrate, et puis aussi dans l'Abadia. Pourquoi l'Abadia? Donc c'est le désert syrien qui touche l'Irak, la Jordanie et les grandes villes syriennes, parce que c'est une zone où l'armée syrienne et ses milices n'étaient pas du tout efficaces, et le couvert aérien, donc russe, n'était pas efficace. Donc ils se sont mis dans cette zone-là. Dès que Bachar al-Assad est tombé, il y a eu des frappes américaines très importantes dans la Badia et même des frappes françaises. Donc le départ des djihadistes de l'État islamique vers les villes, il s'est fait aussi pour commodité, donc pour s'échapper aux frappes et pour quitter cette zone désertique où la vie est très 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 dure et se regrouper en ville. Maintenant, le regroupement en ville, est-ce qu'il va mener à des opérations, à des coups d'éclat, donc d'attaques terroristes en ville? On l'a pas encore vu de manière en tout cas significative, mais on voit par exemple les nouvelles autorités syriennes mener campagne sur campagne pour arrêter des gens suspectés d'appartenir à l'État islamique ou d'avoir des velléités ou des sympathies pour l'État islamique, en amont de quoi? De l'accord de la rentrée en Syrie dans la coalition internationale, donc contre l'État islamique. Ceci dit, juste une petite remarque, c'est encore disons très artisanal. Je donne un exemple. Par exemple, quand la coalition a décidé d'aller toper un supposé chef de l'État islamique en lien avec l'Abadia, dans une ville qui s'appelle Doumer, à côté de Damas, ils ont pris avec eux des soldats syriens, des militaires syriens, d'un groupe rebelle qui travaillait déjà avec les Américains. Ils n'ont pas coordonné avec Damas, ils ont été faire cette descente de nuit, ils ont tiré sur cette personne, ils l'ont appréhendé, sauf qu'après ils ont découvert que c'était un agent infiltré de Damas dans l'État islamique. Donc, cette coordination manque encore. C'est peut-être ce qui va être arrangé aux États-Unis. Et cette coordination qui se fait aujourd'hui avec les factions kurdes, peut-être qu'elle passera, avec toutes les erreurs qu'il y a eu aussi, quand même, peut-être qu'elle passera entre les mains de Damas. Et là, on passe à la vitesse supérieure, pour revenir au début de votre question, où peut-être l'État islamique sera encore beaucoup plus virulent contre les nouvelles autorités.
Est-ce que votre réponse, Wassim Nasr, est aussi une manière élégante de me dire que je me suis trompée et qu'il n'y avait pas du tout de combattants de l'État islamique dans la région d'Idlib? Parce qu'on le disait à un moment, on disait comme Idlib est assez mal contrôlé dans les régions rurales.
Non, vous avez raison. D'accord. Il y avait des cellules qui ont été combattues, donc, disons, très durement, même plus que des cellules. En 2017, donc par HTS, 2018, il y a eu des vrais combats rangés. Puis c'est devenu des cellules parce qu'ils les ont quasiment écrasées, sans oublier aussi qu'il y a une certaine coordination tacite, au moins tacite, entre HTS dès ces moments-là, 2017, 2018, 2019, avec la coalition.
Ah, donc on ne sait toujours pas si c'est avéré ou pas, mais en tout cas, en effet, on imagine que le président intérimaire al-Shara en fait déjà coopérait avec la coalition internationale.
C'est plutôt avéré, mais on ne sait pas quelle était l'étendue de cette coopération. Et admettons que s'il n'y avait pas cette coopération, s'il ne le connaissait pas déjà, il ne jouerait pas au basket il y a quelques jours avec le chef de commandement américain, central américain, et le chef de la force de la coalition qui combat l'État islamique.
Qui c'est qui a gagné?
Ah ben, ce qu'on a montré, c'est l'égalité.
C'était le plus important et c'est peut-être ce qui sera rappelé en ouverture de la rencontre d'aujourd'hui entre Ahmed Al-Shara et Donald Trump à Washington tout à l'heure. On va y venir parce que l'enjeu, c'est vraiment de savoir si la Syrie va rejoindre la coalition et officiellement cette fois la coalition de lutte contre l'État islamique. Alors vous parliez tous les deux d'un redéploiement de l'État islamique vers plusieurs villes depuis le désert de Badia, donc ce vaste désert irako-syrien, vers plusieurs villes, en particulier des résorts à l'est de la Syrie, à 450 km de Damas, au bord de l'Euphrate, cette ville censée être toujours tenue par les Kurdes. Quelle tension cela crée aujourd'hui, Arthur Kenev, vous y avez passé du temps ces dernières années, à des résorts, comment est-ce qu'on y vit? Est-ce que l'État islamique est visible et présent?
Alors, des résorts est contrôlé par le gouvernement syrien. Et avant ça, a été contrôlé par la ville de des résorts par le régime de Bachar al-Assad. Quand on parle de des résorts, en fait, il y a deux parties. Il y a la partie à l'est de l'Euphrate qui est contrôlée par les Kurdes et la coalition. Et la partie à l'ouest qui est contrôlée donc par le régime avec la ville de des résorts. Donc un gouvernorat scindé en deux. C'est ce qu'on appelle en fait un territoire disputé entre les forces kurdes et les forces du gouvernement. Le fait que ce territoire soit disputé fait qu'il y a très peu de coordination sécuritaire, ce qui permet à l'État islamique de se redéployer assez facilement dans cette zone. Ensuite, pour répondre à votre question, donc j'ai pu m'entretenir avec des combattants de l'État islamique qui ont fait défection avant l'été. Et ces derniers racontaient un peu comment s'était opéré leur redéploiement à des résorts depuis la Badia. Et en fait, ce qu'on voyait, c'était donc déjà beaucoup d'attrition dans la Badia du fait des frappes de la coalition internationale dont parlait Wassim, beaucoup de blessés. Les personnes avec qui j'ai pu m'entretenir disent toutes donc se redéployer à des résorts, en fait chercher des appartements, chercher surtout de l'aide médicale, commencer une installation qui est assez précaire. Et puis finalement, bon, il se passe pas grand chose. Très peu de contact avec les nouvelles autorités, dans le sens, il n'y a pas vraiment d'opération sécuritaire contre eux. C'est des gens qui reviennent de la Badia, qui arrivent à se fondre un peu dans la population. Et beaucoup ensuite de ces combattants de l'État islamique de la Badia, syriens, vont faire défection. Beaucoup reprennent une vie civile, s'éloignent de l'organisation, voire même trahissent l'organisation en se rapprochant des autorités, en donnant des noms, en commençant à collaborer. Ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est pas évident, c'est pas facile pour une organisation clandestine de passer d'années de lutte dans un désert à une normalisation dans des villes. Ça demande beaucoup de réorganisation, de préparation de nouveaux réseaux. Les combattants qui ont pu être dans le désert sont pas forcément ceux qui vont continuer à combattre pour l'organisation. Mmh. On voit donc une espèce de latence où l'État islamique tente de se réorganiser. Alors maintenant, pour terminer, la vie à des résorts, donc c'est une ville qui a été totalement détruite par la guerre, hein, qui était tenue par le régime de Bachar al-Assad, qui a réussi à prendre le contrôle de...
Ah, vous avez disparu, Arthur.
En rasant la ville.
Oui.
Ouais.
Oui, pardon, on a rasé la ville.
Ouais, et donc y a pas vraiment d'enjeux stratégiques à des résorts même. L'État islamique, par contre, utilise la région des résorts pour se redéployer côté kurde de l'Euphrate, donc à l'est de l'Euphrate, et harceler les forces kurdes. Il y a eu donc près d'une centaine d'attaques depuis la chute de Bachar al-Assad, une trentaine de morts parmi les combattants kurdes avec plus d'une centaine de blessés. Et on a des attaques toutes les semaines contre les forces kurdes dans cette zone.
C'est une
zone de redéploiement et de guérilla.
Zone de redéploiement, de guérilla, mais aussi zone où d'anciens combattants de l'État islamique refont une vie en quelque sorte dans cette ville-là, qui est par ailleurs un nœud stratégique des résorts, qui fait la jonction entre le désert de la Badia et les grandes plaines de Mésopotamie, pas loin de la frontière irakienne. Wassim Nasr, pour ceux qui font défection, les combattants de l'État islamique qui font défection, comment se passe, qu'est-ce qu'on sait de la façon dont ils vivent, qu'est-ce que l'État islamique jusqu'à présent leur pourvoyait, auxquels ils n'ont plus accès? Est-ce qu'ils doivent réinventer une vie et comment?
En fait, ces combattants donc de l'État islamique, il faut imaginer, ce sont ceux qui se sont réfugiés dans le désert à la chute de Baghouz, que vous avez à juste titre mentionné en début de votre propos. Il y avait beaucoup d'enfants parmi eux. Donc des enfants qui ont grandi dans le désert, qu'ils soient syriens ou étrangers. D'ailleurs, l'émir de la Badia, jusqu'à la chute d'Assad, parce qu'on ne sait pas après, était un étranger d'un pays nord-africain. C'était même pas un syrien. Et donc tous ces gens-là n'avaient pas de porte de sortie. Aujourd'hui, avec la chute d'Assad et la prise de pouvoir d'Ahmad al-Shara, pour les Syriens, il y a une sortie. Donc ils quittent le désert, ils font défection comme Arthur l'a dit, ils essaient de se refondre dans le tissu, disons, syrien, sans pour autant avoir des velléités, pour velléités donc djihadistes pour le compte de l'État islamique, qui finalement n'avait pas grand-chose à leur offrir. Après, ceci dit, le blanc-seing qu'a Ahmed Charah du fait d'avoir fait tomber Assad, donc d'être le parti gagnant, devient de plus en plus attractif pour le bassin de recrutement qui est le même finalement, le bassin donc sunnite, tribal, de recrutement. Et donc et ces gens-là vont essayer de trouver une place dans le nouvel ordre qui s'établit en quittant donc cette organisation. Mais ça, c'est pas à durée indéterminée. C'est pour ça que c'est très important, donc c'est important ce qui se passe sur le terrain, mais c'est aussi important, ou autant, de voir comment les sanctions vont être complètement levées après cette visite de Washington, comment de l'argent va être injecté pour reconstruire ces régions, reconstruire ces villes. Moi, des Azores, je l'ai visité il y a en juillet dernier, donc c'est une ville à 90% rasée, il n'y a rien. Strictement rien. Donc les gens vivent dans les décombres, disons, de leurs habitations. Donc si une offre leur est faite à temps, donc économique, politique de représentation, on peut imaginer que l'État islamique deviendra de moins en moins attractif. Là, je parle des Syriens.
Donc tout l'enjeu vraiment aujourd'hui, cette rencontre à Washington entre Donald Trump et Ahmed Al-Sharaa, c'est qu'Al-Sharaa réussisse à obtenir la levée des sanctions internationales qui empêchent pour l'instant la reconstruction. La Banque mondiale en estime le coût à 216 milliards de dollars. Et s'il n'y a pas de reconstruction, en effet, beaucoup de Syriens peut-être retourneront dans le giron de l'État islamique, lequel est à l'affût, c'est le titre d'ailleurs qu'on a choisi pour cette émission, l'État islamique à l'affût, voir si la transition réussit et plus plutôt en attente de ce qu'elle échoue pour ramener à elle tous ceux qui, pour l'instant, ont fait défection. Arthur Kenney, est-ce qu'on sait si l'État islamique continue à être, par ailleurs, dans une démarche de recrutement, ne serait-ce que pour compenser toutes les pertes que vous avez décrites l'un et l'autre décrites.
Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. L'État islamique cherche, depuis la chute du califat en 2019, à reconnecter sur les bassins de population, que ce soit les grandes villes irakiennes, Kirkouk, Mossoul ou Anbar, ou les villes syriennes. La chute de Bachar al-Assad lui permet de reconnecter dans les villes, de se redéployer donc dans les grandes villes de l'ouest de la Syrie. Cependant, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, il n'y a pas forcément de capacité de recrutement. Pourquoi ? Parce que l'organisation devrait, à ce moment-là, gérer des nouvelles recrues, les prendre en charge, alors qu'elle peine actuellement à recréer des réseaux clandestins et capable de mener des opérations. Cependant, ce qu'on voit, c'est un changement du narratif des capacités de communication de l'organisation à des réseaux où donc j'ai passé pas mal de semaines ces derniers temps. L'organisation contacte les gens de manière spécifique, par famille, par clan, etc., en créant une communication, une sorte de propagande personnalisée, ce qui permet d'attirer et de recruter notamment des gens qui ont pu être arrêtés par les Kurdes de manière arbitraire, qui sortent de prison, ce genre de profil. Et ensuite, évidemment, des gens qui ne sont pas satisfaits du fait que le gouvernement syrien, pour l'instant, négocie avec les Kurdes et n'est pas dans une position agressive contre eux pour reprendre les territoires tenus par les forces kurdes à l'est de l'Euphrate. Et donc, beaucoup de gens se tournent vers l'État islamique pour mener des opérations contre les Kurdes. De cette manière-là, l'État islamique recrute localement.
Même si pour l'instant, ces négociations ne sont pas allées très très loin. Wassim Nasr ?
Oui, en fait, je voulais juste rebondir par rapport à ce que disait Arthur. Donc cet aspect-là, donc le reach out, comment dire en français, s'adresser, disons, aux tribus et aux clans, par clan et par tribu, c'est très important pour l'État islamique et c'est très important aussi pour le pouvoir, le nouveau pouvoir syrien. Par exemple, Ahmed Al-Sharaa a nommé un de ses compagnons de route, disons, qui s'appelle Jihad Issachar, comme son représentant pour les clans et pour les tribus. Donc, c'est l'homme qui le représente, qui va négocier avec les clans sunnites et les tribus sunnites, que ça soit sur toute la Syrie. Et pourquoi c'est important? Parce que si on parle du dossier État islamique, c'est là que l'État islamique va chercher à recruter. Donc c'est là qu'il faut essayer de l'empêcher, surtout dans les zones Est, sachant que le contentieux entre Sharia et l'État islamique dans les zones Est remonte à 2013. C'est là-bas que la guerre entre l'État islamique et Al-Qaïda a commencé, et l'homme derrière cette guerre, c'est quand même Ahmed al-Sharaa. Il y a aussi le contentieux avec les Kurdes, ou les négociations avec les Kurdes, parce qu'on parle des forces kurdes, mais les forces kurdes sont à plus de 80% formées de combattants arabes qui appartiennent à ces mêmes clans, que ce soit Araka, Asaka et Deir-Ez-Zor. Donc d'où aussi le fait de nommer ce personnage, disons, pour discuter avec les clans. Donc ce qui se passe à Washington en termes de reconnaissance, levée des sanctions, est très important, mais ça ne vaut rien sans le fait de pouvoir tenir sa majorité sunnite en Syrie même. Donc ça va de pair.
En attendant, qui a le plus intérêt, des Kurdes ou du gouvernement syrien, à ce que cet accord aboutisse? Est-ce que, par exemple, Arthur Kenney, aujourd'hui à Deir-Ez-Zor, les Kurdes sont complètement au fait de ce qui se passe dans la ville? Est-ce qu'ils savent où se trouvent les probables menaces et dangers? Est-ce qu'ils peuvent faire du renseignement? Où en est aujourd'hui la faculté des Kurdes et des FDS, qui sont majoritairement composés de Kurdes, pour contenir cette menace de l'État islamique?
Alors, la ville de Deir-Ez-Zor, encore une fois, tenue par les forces du gouvernement, donc
l'armée syrienne, sur la rive de l'Euphrate, dont vous parlez.
De HTS. Mm-hmm. Et donc, ils ont. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, HTS, ou les nouvelles forces syriennes, ont une manière très particulière de poursuivre l'État islamique. Donc, ils sont très forts pour localiser des réseaux. Et ensuite, quand ils interviennent, c'est de manière assez discrète, avec quelques hommes, une opération de sécurité qui finalement ne fait quasiment pas de dommages collatéraux. Et on voit que dans l'ouest du pays, ces derniers jours, ils ont mené plus d'une soixantaine d'attaques de neutralisation de cellules de l'État islamique en vue de la rencontre d'Ahmed al-Sharaa à Washington. Le côté SDF, donc côté est de l'Euphrate, les forces kurdes interviennent sur un modèle très occidental de contre-terrorisme, en appui, donc appuyé par les forces de la coalition, les forces américaines principalement. En général, c'est des convois avec plusieurs centaines d'hommes, de l'aviation, des hélicoptères. Ils encerclent des villages pour essayer de retrouver une cellule d'État islamique. Ils vont en rester plus de plusieurs dizaines de personnes. Et ça, cela a lieu quasiment toutes les semaines. Donc en fait, ils ont une stratégie de contre-insurrection qui est très, très contre-productive, on va dire, dans le sens où les gens arrêtés ensuite fournissent de nouvelles recrues à l'État islamique. Et surtout, les SDF perdent le contact avec la population qui ne leur donne plus aucune information. Et il faut ajouter là-dessus que la coalition a fermé deux grandes bases militaires dans le cadre d'un plan de repli qui était acté depuis plus d'un an. Donc deux grandes bases le long de l'Euphrate, Conneco et Green Village, ont fermé en avril dernier. Et actuellement, les SDF sont aveugles, ne disposent plus du renseignement qu'assurait la coalition. Et le renseignement qu'elles peuvent tirer de la population, comme je disais, est très mauvais. Donc on est dans une espèce de cycle où plus les forces démocratiques syriennes interviennent, plus elles se mettent à dos la population et créent des brèches que l'État islamique emprunte pour les harceler. Et voilà. De cette manière-là, on arrive à comprendre pourquoi l'État islamique a démultiplié le nombre de ses attaques depuis avril dernier dans cette zone.
Dans ce contexte, c'est facile pour l'État islamique de mettre la zone sous pression. Des attaques dans cette zone, Wassim Nasr, est-ce à dire que pour l'instant, tous les attentats que continue à mener l'État islamique en Syrie sont plutôt majoritairement dirigés vers les Kurdes?
Oui, ils sont plutôt dirigés vers les forces kurdes, donc commandées en tout cas par les Kurdes, qui sont quand même, disons-le, à majorité arabe.
Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, bien sûr.
Des tribus et de contacts pris avec les tribus, que ce soit par l'État islamique ou que ce soit par Damas ou que ce soit par les autorités. Donc du YPG kurde. Oui, effectivement, comme l'a très bien rappelé, les attaques se concentrent là-bas, mais les attaques se concentrent depuis plusieurs années là-bas. Il y a eu une augmentation, disons, qualitative entre guillemets, évidemment, de ces attaques-là dernièrement, mais on reste quand même dans un rayon d'action, disons, qui est habituel pour l'État islamique, qui profite, en tout cas, du ressenti des populations vis-à-vis du commandement kurde de ces forces. D'où aussi le pari, disons, de Damas, qui est un pari, parce que ça reste très volatile, en disant, ça veut dire, en disant aux Américains, si nous, on reprend le contrôle de ces zones-là, ce qui est un peu un cadeau empoisonné, hein, vu la présence d'État islamique là-dedans, on pourrait contenter les tribus arabes qui seront moins attirées par les sirènes de l'État islamique. Mais tout ça, ça reste de l'ordre du spéculatif. Et comme l'a rappelé Arthur, deux grandes bases américaines ont été fermées parce que les Américains sont en phase, en tout cas, de passer le dossier du combat de l'État islamique aux autorités de Damas, mais aussi les prisons où sont détenus des djihadistes étrangers aujourd'hui tenus par les forces à commandement kurde.
On nous dit souvent qu'une attaque sur le camp pourrait se produire. Si vous voulez mon avis, les habitants de la région ont l'habitude de vivre aux côtés de l'État islamique. Les réfugiés du camp pourraient facilement être séduits. Je ne sais pas exactement combien, mais je sais que beaucoup d'entre eux sont déjà prêts. Ils attendent que quelque chose se passe, qu'ils soient libérés ou non. Si une guerre se déclenche dans la région, je suis sûr qu'ils seront prêts à se battre à leur côté.
Jiyane Kochi, co-responsable du camp d'Al-Hol, qui parle de ces risques que représentent aujourd'hui les membres du camp qu'elle surveille en cas de retour de l'État islamique. C'était en février dernier. Le camp Al-Hol, aujourd'hui, il compte 27 000 prisonniers à peu près. Arthur Kenet, est-ce que les Kurdes sont prêts à reconnaître qu'ils ont besoin d'aide pour tenir ces prisons? Parce que pour l'instant, ça ne prend pas les discussions avec les autorités de Damas.
Alors les Kurdes sont dans un bras de fer avec Damas, et bien sûr les Kurdes ne peuvent pas tenir ces complexes carcéraux et les camps d'Al-Hol et de Rojh tout seuls, et ont besoin de l'appui et de l'aide de la coalition. D'ailleurs, la fin des budgets de l'USAID en janvier dernier a mis en péril la gestion de ces camps, et c'est finalement les UN et qui ont réussi, avec des financements européens aussi, qui ont réussi à maintenir la gestion, la gouvernance de ces camps. Les forces kurdes toutes seules ne peuvent pas tenir face à un problème de ce type-là. Faire de la guérilla contre l'État islamique, c'est une chose, mais à terme, ce qu'on disait, c'est que les dommages collatéraux, vous mettez à dos la population, et finalement, vous risquez d'être face à une insurrection qui déborde, en fait, le problème de l'État islamique. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la carte a changé. Les SDF arrivaient à tenir ces zones parce que les populations arabes de ces zones ne voulaient pas du retour du régime de Bachar al-Assad. Depuis la chute de Bachar al-Assad, l'ensemble de ces populations veulent le retour de Damas et veulent le retour de l'État. Et ça, évidemment, c'est un narratif extrêmement difficile à contrer pour les forces kurdes, qui appellent de leur vœu un projet de décentralisation, qui tentent de négocier avec Damas. Mais en l'occurrence, pour l'instant, rien n'avance. Et c'est probablement le retour de l'État qui va avoir lieu de gré ou de force dans les prochains mois.
L'idée de ces discussions qui ont cours même régulièrement, je crois qu'Al-Shara et le chef des FDS se sont rencontrés encore récemment, il y a 3 semaines, c'est d'intégrer une partie des forces de défense syriennes à dominante arabe, donc, mais sous commandement kurde, dans des brigades sous contrôle du ministère de la Défense syrien, d'autre part de faire revenir les forces syriennes sur les gouvernorats qui avaient jusqu'ici été confiés aux Kurdes comme des résorts. Alors pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Wassim Nasr, les Kurdes sont aujourd'hui parmi les premiers visés par les attaques de l'État islamique, mais il y en a d'autres qui visent cette fois des employés du ministère de la Défense. Par exemple, il y a 3 semaines, une attaque contre un bus où circulaient des employés près de la frontière avec l'Irak, à une cinquantaine de kilomètres de Deir-Ezor. Comment expliquer que les derniers attentats qu'on attribue, nous, à l'État islamique, lui, ne les ait pas revendiqués, ces attentats-là? L'État islamique, qui fut jadis si prompt à revendiquer des attentats, y compris quand il ne les avait pas commis.
Il y a deux raisons principales, disons. C'est-à-dire, la revendication n'est pas une science exacte. L'État islamique revendique quand ça l'arrange, et des fois, ça ne l'arrange pas de revendiquer. Pour peut-être semer la zizanie ou autre chose. Par exemple, il y a eu des assassinats de figures d'HTS qui n'ont jamais été revendiqués, alors que les empreintes de l'État islamique sont partout. Par exemple, Maria Kartani, qui était numéro 2 du Front Nusra, et à un moment numéro 2 d'HTS, était tué par un kamikaze à Idlib. Et ça n'a jamais été revendiqué. Mais on sait très bien que les pistes mènent vers cela. Après, il ne faut pas aussi oublier que le théâtre syrien est un théâtre très 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 complexe. Donc des attentats qui ressemblent à des attentats de l'État islamique, mais qui sont fomentés et commis par d'autres, surtout quand on parle d'explosifs, voitures piégées, ça peut arriver aussi. Il ne faut pas oublier aussi que la frange dure, disons, des forces kurdes, YPG, PKK, ont recours aussi aux attentats, aux voitures piégées, aux assassinats ciblés.
Pas contre leurs propres forces, mais contre des forces gouvernementales.
Exactement. Donc les attentats à la voiture piégée à Manbij, qui a été repris par Damas à la chute d'Assad, par les nouvelles forces, nouveaux pouvoirs de Damas, il y a eu plusieurs attentats à la voiture piégée dans les premiers mois, jamais revendiqués, mais enquête faite, recherche faite, ça menait plutôt vers l'aile dure, parce que chacun en Syrie a son aile dure, des YPG. Donc évidemment, on pense à l'État islamique Et c'est probablement l'État islamique dans ses dernières attaques à Mayadine, à Deir ez-Zor ou même dans d'autres attaques qui ont visé les forces gouvernementales. Mais il n'est pas à exclure que d'autres acteurs, même par exemple les milices chiites qui se sont fait chasser de Syrie par le nouveau pouvoir, pourraient aussi être à la manœuvre et dans ces cas-là, ne pas revendiquer est souvent la norme, disons.
Wassim Nasr, on parle ici de la Syrie, qui est un pays qui est dirigé aujourd'hui par un président intérimaire, lui-même ancien djihadiste, quand il avait pour nom de guerre Abu Mohamed al-Julani au sein de HTS, ancien front al-Nosra. Au nom de quoi a-t-il engagé une lutte à l'époque contre l'État islamique dont il avait fait lui-même partie? C'est un peu complexe, il faut le rappeler à chaque fois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du combat d'Al-Shara contre l'État islamique, dont il fut lui-même un membre.
Oui, effectivement. Donc lui, il a été missionné directement par feu Abou Bakr al-Baghdadi dès 2012 pour aller planter, disons, de ce qu'était la filiale de l'État islamique en Syrie, donc le Front al-Nusra. Sauf que il suivait plus les ordres, disons, de Baghdadi sur différents sujets, sans rentrer dans les détails. Des assassinats, par exemple, de chefs rebelles, ça l'a pas empêché pareil d'en faire lui-même après, mais bon, en tout cas, il refusait les ordres de Baghdadi, il refusait que la Syrie soit une plateforme, par exemple, de projection d'attaques ou d'attentats en Turquie, par exemple. Et c'est en fait lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a créé cette friction en refusant les injonctions de Baghdadi, cette friction entre Al-Qaïda et l'État islamique, parce qu'à ce moment-là, il a rejoint Al-Qaïda et la guerre qui a éclaté entre les deux groupes, qui aujourd'hui touche le globe. Donc il a ce leg-là, disons. Il a perdu la guerre contre l'État islamique à Deir ez-Zor, dont on parle maintenant. Il s'est replié vers le sud, puis vers Idlib. Il a perdu plus de 70% de ses hommes. C'est lui qui me l'a dit, parce que moi je l'avais rencontré à Idlib en avril 2023. Il m'a dit, j'ai perdu plus de 70% de mes hommes. Quand je l'ai questionné, pourquoi vous avez rejoint Al-Qaïda en quittant l'État islamique? Il a dit, j'étais obligé de rejoindre un autre groupe, sinon j'aurais perdu tout le monde. Et donc Al-Qaïda, ça n'a pas duré très longtemps. Pareil, il a imposé à Zawahiri, donc le chef d'Al-Qaïda à l'époque, que la Syrie soit pas une plateforme pour la projection d'attentats en Occident, etc. Et puis très vite, il a aussi coupé les ponts avec Al-Qaïda pour syrianiser encore plus son groupe et en incluant d'autres groupes qui étaient certes islamistes, mais pas djihadistes. Et c'est à partir de là, en tout cas, qu'il y a eu une sorte de collaboration ou de coopération tacite avec la coalition. Et le fait est qu'il était sous sanction, il y avait 10 millions sur sa tête, il faisait partie des cibles des Américains et qu'il n'a jamais été ciblé lui-même. Donc ça en dit long aussi sur cette mue qui n'a pas démarré avec la chute d'Assad, mais qui a démarré il y a très longtemps, donc dès 2017. Il estime que tout ce qui était attentat en Occident, tout ce qui était guerre contre les Occidentaux, etc., c'était une erreur. Et c'était une erreur grave d'appréciation et qui a coûté très cher aux populations de la région. Ce sont ses dires, ce sont les dires de ces chefs, disons, chariatiques, et de son actuel ministre des Affaires étrangères, que pareil, j'avais rencontré en avril 2023 à Idlib, donc bien avant la prise de Damas. Donc ce qui a été dit a été appliqué. Et aujourd'hui, on est à l'aboutissement, une mue qui a duré à peu près 8 ans.
Alors Arthur Kenneth, dans ces 8 ans qu'a duré la mue d'Ahmed al-Shara, à quel moment l'État islamique a commencé à le considérer comme un traître, qui est le terme qui est employé aujourd'hui quand al-Shara sera à Washington pour rencontrer Donald Trump? En réalité, quelle est la plus grande traîtrise qu'al-Shara ait commis vis-à-vis de l'État islamique? C'est d'avoir quitté l'État islamique, c'est d'avoir ensuite quitté Al-Qaïda, c'est d'avoir créé les HTS, ou c'est aujourd'hui de parler avec les Occidentaux?
Bien, c'est du sang, c'est-à-dire dès 2013, la scission avec l'État islamique se fait dans le sang par une forme de contre-insurrection menée par la rébellion syrienne et à laquelle Ahmed Shara se joint avec le Jabhat al-Nusra. Et depuis 2013, donc Ahmed Shara combat l'État islamique, donc plus de 12 ans de combat. L'ensemble des hommes d'HTS ont tous combattu l'État islamique et c'est une menace existentielle pour eux. Et c'est pour ça qu'actuellement, Ahmed Shara fait tout ce qu'il peut avec ces nouvelles forces de sécurité pour s'opposer à ce groupe-là et traquer les différentes cellules dans les différentes villes syriennes. C'était d'ailleurs, comme Wassim le rappelait, c'était d'ailleurs un leitmotiv depuis plusieurs années à Idlib, où HTS demandait un soutien occidental, en tout cas en se projetant comme la principale force capable de combattre l'État islamique. La principale différence entre Ahmad Shara et les forces démocratiques syriennes, qui combattent également l'État islamique depuis sa gestation en 2012-2013, c'est que HTS connaît bien les réseaux de l'État islamique. Ils ont une capacité d'entrée dans la population et d'infiltration de ces réseaux bien supérieure aux capacités des forces kurdes, qui finalement agissent plutôt comme un acteur endogène et qui ont du mal à poursuivre dans les villes arabes, dans la profondeur arabe, le groupe. Alors que HTS sait faire et est en train de démontrer qu'il a cette capacité. Et évidemment, maintenant, reste à voir, il a besoin d'appui, donc il va avoir besoin d'un appui crucial de la coalition, et c'est pourquoi Ahmed Shara va rejoindre la coalition internationale contre l'État islamique, probablement aujourd'hui, suite à sa visite à Washington.
Donc, visite à Washington, où la Syrie compte devenir sans doute semblez dire que c'est acquis, que la Syrie va devenir le 88e pays à intégrer cette coalition internationale contre l'État islamique. Al-Shara et Donald Trump s'étaient déjà rencontrés en mai dernier à Riyad, et ce jour-là, la publication hebdomadaire Al-Naba, affiliée à l'État islamique, y était allée de son éditorial pour accuser Ahmed Al-Shara de trahison, encore une fois, et pour inviter les combattants non syriens, écrivait cette publication, a rejoint les brigades de l'État islamique plutôt que servir de carte à jouer à Al-Shara pour obtenir l'approbation internationale. Wassim Nasr, pour clore ce premier épisode, pas encore, cette première partie de notre premier épisode de notre série sur les djihadistes, mais avant de parler demain du Sahel, que vous connaissez bien également, est-ce qu'Al-Shara, ancien djihadiste qui a abandonné le djihad international, a ouvert une brèche en quelque sorte, a invité d'autres groupes djihadistes, y compris au Sahel, dont on parlera demain, à imaginer une autre voie?
Absolument, c'est inédit, et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à aller le voir dès 2023, à Idlib, parce que je voyais une troisième voie se tracer. Donc, dans les nébuleuses djihadistes mondiales, c'était la première fois qu'on avait un groupe djihadiste qui contrôlait une zone, donc qui n'avait pas perdu, un chef qui n'était pas emprisonné, qui disait tout ça, sans entrer dans le détail, était une erreur. Donc, je vous invite à revoir ce que j'avais écrit pour France 24 à l'époque, et à argumenter tout ça. Et donc, on a une sorte de blueprint qui se fait, une feuille de route, disons, pour une sortie du terrorisme global et du djihadisme international. La prise de Damas a confirmé ses intentions et cette voie-là. Donc évidemment, ailleurs dans le monde, on regarde ce qui se passe en Syrie. Mais, pas que ça, parce que le fait que les Américains négocient avec les talibans directement, des anciens détenus de Guantanamo, leur sortie d'Afghanistan, avait déjà commencé une nouvelle dynamique. La prise de Damas, la rencontre de Shara avec Trump, puis sa visite de Washington aujourd'hui, clôt un chapitre de la guerre contre le terrorisme telle qu'on l'a connue depuis 20 ans.
Est-ce que vous voulez dire qu'Al-Shara n'a pas seulement une feuille de route syrienne, mais aussi qui concerne généralement le djihad international?
Ça peut créer une feuille de route. Ça veut dire aujourd'hui, pour la première fois, on sait que sortir du djihad global, du terrorisme international, c'est possible pour revenir dans le concert des nations. C'est inédit pour les groupes djihadistes, mais ce n'est pas inédit dans l'histoire humaine, parce que d'autres groupes qui ont fait usage du terrorisme, même international, sont sortis et sont revenus dans le Conseil des Nations. On parle de l'IRA, on parle de l'ETA, on parle de l'OLP, et j'en passe. Mais ce qui est nouveau, ce qui est inédit, c'est cette sortie d'un groupe djihadiste du terrorisme international. Ça ne le rend pas moins rigoriste, mais ça le transforme en partenaire viable pour ceux, en tout cas, du moins, qui ont initié cette attaque contre le terrorisme et qui en ont payé le plus lourd tribut en interne, donc les Américains. Donc, un chapitre aujourd'hui, un nouveau chapitre est en train de s'ouvrir et il crée des portes de sortie, peut-être, pour d'autres groupes, comme le JNIM au Sahel ou comme d'autres zones dans le monde où la sortie du terrorisme international et du djihad global peut faire une sortie, une solution pour baisser la tension et baisser les crises.
Reste à savoir en Syrie que faire des combattants étrangers qui avaient rejoint le djihad et la lutte contre Bachar al-Assad avant sa chute et que le gouvernement cherche à intégrer, mais ça ne se fait pas sans difficulté. On en parle avec la journaliste Iris Lambert juste après ce groupe syrien Safar.
كيف الحال يا ابن الحلال مين اللي قال يمكن تغيب و
Le groupe syrien Safar et cette chanson qui date d'il y a 2 ans, Papa ou mon père, Yaba, en arabe. Vous écoutez Culture Monde, le premier épisode d'une série sur la reconfiguration des groupes djihadistes qui défient les États. Aujourd'hui en Syrie, où l'État islamique guette la transition menée par Ahmed al-Shara, que le groupe djihadiste aimerait voir échouer. En Syrie, où se pose aussi la question de la présence de milliers de combattants islamistes étrangers qui ont participé aux batailles contre la dictature de Bachar al-Assad et que le gouvernement intérimaire d'Ahmed al-Shara essaye aujourd'hui de contrôler.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Le 22 octobre dernier, les forces gouvernementales syriennes lançaient un assaut contre un camp de djihadistes français dans la région d'Idlib au nord-ouest de la Syrie. Le chef du camp s'appelle Oumar Diaby, son surnom Omar Homsen. Il est visé par un mandat d'arrêt international, mais aussi par la plainte d'une mère qui l'accuse de mettre en danger la vie des enfants dans ce camp. Omar Homsen, lui, assure respecter les accords signés avec le gouvernement de transition syrien.
Ce qui a été conclu, c'est de rendre les armes. On était d'accord. Ensuite, de ne pas parler sur eux au niveau des médias. Ça, on le respecte. Et aussi, si jamais il y a un problème, quelqu'un porte plainte contre moi, que j'aille au tribunal pour régler le problème.
Omar Homsen, interrogé ici par la journaliste Manon Chaplin au lendemain de l'attaque du camp d'Al-Fardan. Vous y étiez aussi. Iris Lambert, bonjour.
Bonjour Julie.
Et bienvenue à vous. Vous êtes journaliste indépendante pour La Croix, Libération et Society. Vous êtes aussi doctorante aux séries et vous êtes avec nous ce matin depuis Bagdad. D'abord, où est-il situé ce camp? Quels sont les paysages autour quand on s'en rapproche pour bien se représenter ce camp où vous vous êtes rendu au lendemain de l'attaque des forces gouvernementales syriennes?
Alors, le camp d'Al-Fardan, il est situé vraiment tout au nord de la Syrie. Il faut emprunter une route qui serpente, qui s'enfonce un peu dans des arêtes de montagnes rocheuses de la région. C'est des paysages assez spectaculaires. Et cette route, elle finit par déboucher sur un petit village qui s'appelle le village de Harem. Et là, il faut reprendre encore une fois une route. Et sur 3 kilomètres, on arrive en haut d'une colline qui surplombe... vraiment les plaines qui séparent la Syrie de la Turquie, et on voit ce mur qui serpente et sur lequel est adossé ce camp. Et alors nous, quand on y est arrivé, c'était effectivement au lendemain de l'intervention, et ça ressemblait quand même à une scène une zone de guerre, puisqu'il y avait eu des affrontements. Il y avait des mines anti-chars déposées sur le sol, des murs perforés, des impacts très visibles et des snipers qu'on pouvait voir au travers des trous dans les murs. Et puis ça faisait quand même un petit peu contraste avec l'ambiance à l'intérieur du camp dans lequel on a pu pénétrer, très silencieux mais très ombragé, avec des pins. Des petites baraques blanches et un grand terrain de football autour duquel jouaient des enfants, dans lequel se baladent des femmes en burqa, et puis une quasi-totalité des hommes qui sont eux par contre en tenue de combat, gilets pare-balles, kalachnikov et autres armes.
Vous décrivez le paradoxe de ce camp qui évoque à la fois un camp militaire et un camp de vacances pour les enfants. Tout le monde parle français, ce ne sont que des combattants français.
Oui, effectivement. Enfin, en tout cas, nous, les personnes avec qui on a pu s'entretenir, que ce soit des adultes ou des enfants, parlaient tous français. On estime à 70 hommes djihadistes qui seraient encore dans ce camp, et puis avec leurs familles, donc leurs femmes et leurs enfants. Les chiffres qui nous ont été donnés dans le camp sont environ une centaine d'enfants, qui sont nés, en tout cas en Syrie, qui sont venus avec leurs parents et qui vivent encore dans l'enceinte de ce camp.
Quand vous arrivez sur place, on est au lendemain de l'assaut de l'armée syrienne. Vous décrivez donc des mines au sol, des impacts d'obus, des lance-roquettes abandonnés. Pourquoi les forces syriennes ont-elles attaqué ce camp, qui n'est pas un camp de l'État islamique, même si ces groupes djihadistes paraissent assez similaires vus de loin?
Oui, alors c'est pas du tout un camp de l'État islamique. Hein. Justement, Omar Omsen, c'est un franco-sénégalais qui a rejoint en 2013 le Jabhat al-Nusra dont vous parliez juste avant, qui était du coup plutôt la branche syrienne d'Al-Qaïda et qui s'est opposé à l'État islamique justement à partir de 2013. Et donc, la raison pour laquelle aujourd'hui, enfin en tout cas la raison qui a été invoquée pour expliquer cet assaut, c'est effectivement la démultiplication de plaintes à l'encontre, alors soit d'Omar Omsen lui-même, soit de personnes qui vivent dans l'enceinte de son camp, parce que ces personnes-là vivraient, disons, sous une forme de juridiction qui parallèle à celle de l'État autonome et dans laquelle ça s'exerce la charia et qui donc fait concurrence aux lois qui devraient s'exercer sur le territoire de manière uniforme avec le nouveau gouvernement intérimaire syrien. Et donc il y a eu cette plainte qui a été déposée sur un cas de kidnapping d'une petite fille qui a voilà servi en tout cas de prétexte à cet assaut, prétexte qui est contesté par Omar Omsen lui-même, qui lui alors c'est son discours, hein, bien sûr, qui lui pointe plutôt vers la France ou en tout cas les services français et qui estime que c'était une façon de vouloir l'extraire du camp pour le rendre aux autorités françaises.
Omar Omsen, ce franco-sénégalais que vous avez rencontré, qui est arrivé en Syrie en 2013, responsable à l'époque de centaines de départs de combattants français vers la Syrie via la filière niçoise, comme on disait, il est visé par un mandat d'arrêt international depuis 2014. Depuis la chute de Bachar al-Assad, quels sont ses projets à lui, Omar Omsen alias Oumar Diaby, et de ses hommes, maintenant qu'il n'y a officiellement plus d'ennemis à combattre, comme il le dit lui-même?
Alors c'est bien sûr assez compliqué d'interpréter tout ce qu'il dit. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un changement de discours entre avant et après cet assaut. Des confrères qui ont pu l'interroger avant l'assaut rapportaient un discours plutôt critique, voilà, qui fait aussi écho à ce dont vous discutiez un petit peu avant au niveau de l'État islamique, la possibilité d'une trahison de Ahmad al-Shara vis-à-vis de la possibilité d'appliquer la charia de manière très rigoriste sur le territoire. Et donc voilà, donc Omar Omsen avait plutôt un discours critique, et ça fait plusieurs années par ailleurs qu'il n'est pas vraiment en odeur de sainteté avec les forces d'HTS qui sont aujourd'hui devenues les forces de sécurité du gouvernement intérimaire. Nous, quand on le rencontre, et il parle à la presse, donc il faut prendre ça en compte, hein, qu'il y a un possible discours qu'il cherche à diffuser. Lui, il explique plutôt que les raisons de sa venue en Syrie en 2013, à savoir faire la hijra et combattre Bachar al-Assad, ce sont des choses qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être parce que le gouvernement, le régime de Bachar al-Assad est tombé. Et donc lui, il dit qu'aujourd'hui, il est prêt à remettre ses armes lourdes, ça fait partie des trois points de l'accord qui ont été passés avec le gouvernement, précisément parce qu'il n'a plus de visée, il ne souhaite plus combattre, en tout cas de manière autonome, au sens où il dit se soumettre à l'autorité de l'État, et donc s'il y avait des consignes militaires, il faudrait qu'elles viennent d'en haut. Voilà, ça c'est son discours aujourd'hui.
Ouais, est-ce qu'on peut dire, peut-être pour conclure, Iris Lambert, lui qui a critiqué encore récemment l'ouverture occidentale d'Al-Shara, comme le font aussi les djihadistes de l'État islamique, est-ce qu'aujourd'hui on peut le considérer comme un rival au président intérimaire de Syrie? Alors même si officiellement il dit à qui veut l'entendre qu'il se soumet aux nouvelles autorités, est-ce que à ce sujet on a des indices pour dire que ceux qui furent jadis anciens alliés ou même compagnons d'armes peut-être sont aujourd'hui des rivaux?
Alors peut-être que rivaux, le terme est un peu fort. Ce qui est certain, c'est qu'il y a certainement un rapport de force. Peut-être que l'indice principal, c'est le fait que au moment de cet assaut, Omar Homsen se retranche dans son camp, riposte et surtout épaulé par une autre brigade de combattants étrangers qui lui viennent en aide. Donc il y a une forme de solidarité qui s'est créée à ce moment-là entre différentes brigades afin de résister d'une certaine manière à la possibilité de se faire complètement happer par ces nouvelles forces de sécurité. Mais peut-être que le dernier point que je veux mentionner, c'est que s'il n'est pas nécessairement un rival frontal, en tout cas, il continue d'appeler et il revendique le fait qu'il appelle des citoyens français en particulier à faire la hijra et donc à migrer pour vivre en accord avec des principes de la charia que lui, il impose lui-même dans son propre camp.
Merci beaucoup Iris Lambert d'avoir été avec nous pour nous raconter ce camp et la figure ambivalente d'Omar Homsen. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante pour La Croix, Libération et Society. On peut vous y lire régulièrement. Vous êtes également doctorante aux séries. Et je remercie également Manon Chaplin qui nous a très gentiment confié certains des extraits sonores du reportage qu'elle a fait dans le camp d'Homsen qui sera diffusé dans Un jour dans le monde mercredi chez nos confrères de France Inter, mais également sur RFI demain dans un grand reportage sur les traces de l'État islamique en Syrie. On entend les échos de ce camp où vous êtes entrés il y a quelques semaines toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Wassim Nasr, il se trouve que lors de l'attaque des forces gouvernementales syriennes contre ce camp, vous étiez vous-même, vous aviez les échos des deux parties en quelque sorte. Que disaient les autorités syriennes de ce camp et d'Omar Homsen en particulier?
Les autorités syriennes voulaient en finir. Parce que c'est pas la première fois qu'ils essayent, mais ils voulaient en finir sans effusion de sang. Ça veut dire sans que, parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants, ne soient tués, parce que ce sont des femmes et des enfants, mais aussi parce que ça susciterait un ressenti dans la population en général et chez les combattants étrangers en particulier.
Ne surtout pas donner d'occasion d'avoir de la colère ou du ressentiment.
Il y a eu le coup de force. Ils ont pensé qu'ils allaient déposer les armes vides. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu des combats pendant à peu près une nuit. Il n'y a pas eu de mort des deux côtés, ce qui a facilité finalement les choses. Et finalement, ce sont d'autres combattants étrangers qui sont rentrés en sorte d'intermédiaire. Donc Homsen, comme il l'a dit, a accepté de rendre les armes. L'autre, mais c'était pas grand-chose. Hein. C'est deux canons de mitrailleuses, donc 14-5, voilà, c'est pas grand-chose. Hein. Et surtout, il a accepté aussi de repasser devant la justice, donc de reconnaître la justice, ce qui était déjà le cas. Donc l'affaire de la fille kidnappée, c'est un prétexte, disons, parce qu'ils veulent finir avec cette exception depuis très 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 très, très longtemps.
Et pourquoi ils le livrent pas à la justice internationale, puisqu'il y a un mandat d'arrêt contre lui depuis 2014?
Parce que pour rentrer dans le camp, c'est compliqué. C'est adossé à la frontière turque. D'ailleurs, pour la petite histoire, les premiers tirs contre le camp ont atterri en territoire turc. Voilà, donc c'est quelque chose de compliqué. Et s'il y a mort de femmes et d'enfants, ça va compliquer les choses aussi. Et par ailleurs, c'est-à-dire la France ne demande pas son extradition aujourd'hui, parce que, ni le démantèlement du camp, par ailleurs, parce que ça ne fait pas partie des priorités de un, et de deux, tant que tout le monde est dans ce camp, on sait tout le monde où sont les gens. Voilà. Alors que si le camp est complètement démantelé, ça serait une autre paire de manches. Donc moi, je mets en doute le fait que ce soit la France qui est demandée, parce que encore une fois, le contentieux avec HTS est très 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 ancien. Et d'ailleurs, les combattants d'Homsen ne se battaient pas seuls depuis un moment aussi. Ils se battaient sous la bannière d'un groupe qui avait un accord avec HTS. Ils ont contribué au combat le jour de la chute d'Assad, mais sous la bannière d'un autre groupe sous le commandement, disons, de HTS. Et cette exception qui valait, vraiment arrive à un moment où HTS a envie d'en finir avec cette exception pour que ça ne fasse pas jurisprudence avec les autres combattants étrangers. D'ailleurs, parce qu'ils ont terminé là-dessus, parce qu'ils ont quand même convaincu les Américains qu'intégrer les combattants étrangers dans la nouvelle armée syrienne était une bonne idée. Donc ils ne veulent pas que les choses sortent du contrôle et que ça soit acté et fait de la meilleure façon.
Merci beaucoup Wassim Nasr. On continue à vous suivre sur vos différents réseaux, mais surtout sur France 24 où vous êtes journaliste pour comprendre ce qui se passe en Syrie au jour le jour. Vous êtes spécialiste de ces mouvements djihadistes. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Ainsi qu'Arthur Kenet depuis Beyrouth, chercheur en sciences politiques affilié à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont je rappelle le titre du dernier livre, Syrie, anatomie d'une guerre civile, aux éditions du CRN. Merci beaucoup, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, La revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Vous nous parlez ce matin de l'Iran, Catherine, confrontée à une sécheresse sans précédent.
Les réservoirs, les barrages sont quasiment à sec. Les pluies historiquement faibles et Téhéran est particulièrement touchée par cette crise de l'eau. La capitale iranienne pourrait être à court d'eau d'ici moins de deux semaines, alerte l'agence de presse iranienne Mehrnews. Si bien que les autorités implorent la population d'économiser l'eau, rapporte l'agence de presse iranienne Khabar Online ainsi que la BBC. Le président Massoud Pezeshkian a même évoqué un rationnement de l'eau à Téhéran, voire des évacuations de la capitale, si la situation ne s'améliore pas en décembre. De quoi inquiéter les 9 millions d'habitants de Téhéran, ajoute Khabar Online, car aucune précision n'a été apportée sur la gestion d'une telle évacuation, note le New York Times. Téhéran, également touché par une pollution de l'air avec des vents qui charrient de la poussière, décrit Khabar Online. Téhéran subit déjà des coupures d'eau nocturnes, rapportent d'autres agences de presse iraniennes, Tasnim et Tabnak. Après un été sec et caniculaire marqué par des coupures de courant généralisées, Téhéran n'a enregistré aucune pluie cet automne, du jamais vu depuis un siècle, souligne le New York Times. Alors, recours à des camions-citernes, à des bouteilles d'eau pour ceux qui peuvent se l'offrir au quotidien, pour boire, se laver, aller aux toilettes, précise la BBC. Une sécheresse si grave que pour l'expliquer, certains Iraniens ont eu recours à des théories du complot, affirmant que des pays voisins volent les nuages de pluie iraniens, raconte le New York Times. Les autorités avaient déjà formulé de telles accusations, rappelle Forbes l'an dernier, quand Téhéran avait accusé la Turquie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite de détourner des nuages iraniens pour leur propre ciel. Un responsable est même allé dans une vidéo reprise par le média iranien Tabnak jusqu'à accuser les États-Unis et Israël de manipuler le climat pour provoquer une sécheresse en Iran. Des allégations complotistes rejetées par l'organisation météorologique iranienne, rapporte l'agence Mer et le journal iranien Charg, il est impossible de voler, de détourner des nuages ou encore de la neige.
Bon alors, on n'a pas volé de nuages a priori, mais les problèmes liés à l'eau en Iran, Catherine, ne se limitent pas à la faiblesse des précipitations.
Des décennies de mauvaise gestion, notamment la construction excessive de barrages, le forage illégal de puits ainsi qu'une agriculture non durable ont contribué à l'épuisement des réserves d'eau en Iran, analyse le New York Times. Le dérèglement climatique et la hausse des températures ont bien sûr aggravé cette crise de l'eau, cette sécheresse en Iran qui entraîne à Téhéran l'affaissement du sol à un rythme alarmant de 30 cm par an, soit 60 fois plus que le seuil critique de sécurité des infrastructures, prévient le New York Times. Alors si le président du conseil municipal de Téhéran, Mehdi Shamran, appelle la population à prier pour avoir de la pluie, indique le New York Times et la Deutsche Welle, Iran International souligne le besoin de réformes structurelles, car la crise de l'eau a de lourdes conséquences aussi dans la province centrale d'Ispahan. Des paysans abandonnent leur village, des communautés entières sont bouleversées par cette migration climatique.
ایران در میانه دهه‌ای ایستاده که خشکسالی دیگر پدیده گذران نیست. واقعیتی پایدار است.
L'Iran traverse une décennie où la sécheresse n'est plus un phénomène passager, mais une réalité permanente, confirme l'ISNA, l'agence de presse iranienne. 5 années consécutives de baisse des précipitations, conjuguées à une hausse de 2 degrés de la température par rapport aux années 70 en Iran, ont perturbé l'équilibre naturel du sol. La faute au réchauffement climatique, aux variations du courant océanique, qui ont des impacts négatifs, mais plus de 90% de l'eau en Iran est actuellement consommée par le secteur agricole, avec un système qui repose encore sur des cultures gourmandes en eau. Chaque année, pourtant, les réserves d'eau souterraines diminuent et l'affaissement des sols dans certaines plaines dépasse le centimètre. Dans le nord-ouest de l'Iran, le lac Dourmia est au bord de l'assèchement total. Sa salinité menace l'agriculture. Seuls des changements structurels permettront d'éviter une catastrophe, souligne l'ISNA, en modifiant les pratiques agricoles, en fermant les puits illégaux, en utilisant peut-être des technologies d'irrigation modernes et en recyclant l'eau, souligne encore l'ISNA, l'agence de presse iranienne, montrant dans une vidéo des terres arides, des sols craquelés en Iran. Pour l'heure, le ministère de l'Énergie a annoncé des opérations d'ensemencement des nuages à l'aide d'avions et de drones, ciblant notamment les zones autour du fleuve Zayandéhoud dans le centre de l'Iran. Mais cette méthode peut s'avérer inefficace, prévient le magazine Forbes, car il n'y a pas assez d'humidité en Iran.
Et cette crise de l'eau pourrait raviver la colère en Iran.
et provoquer de nouvelles manifestations dans le pays, analyse Forbes. Comme on l'a déjà vu il y a 4 ans, avec des milliers d'Iraniens dans les rues d'Ispahan, note L'Orient le Jour. L'Iran risque également d'être encore plus affaibli sur la scène internationale, prévient un expert de l'ONU cité par Fox News. Et le journal réformiste iranien Etemad pointe déjà du doigt la nomination de gestionnaires incompétents à des postes clés comme principale cause de la crise de l'eau en Iran.
Merci beaucoup Catherine Dutu.